Salut, c'est Romaric, bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Aujourd'hui, nous débutons une série de deux émissions consacrées au handicap dans le 7e art.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha! Graffiti Cinéma.
Question sociétale longtemps marginalisée, le handicap au cinéma a longtemps fait l'objet de plusieurs malentendus. À l'image du film culte de Todd Browning, Freaks en 1932, intitulé tristement La monstrueuse parade en français, qui représentait ce film les marges, les nains et les handicaps sans que l'on comprenne tout des intentions de son réalisateur, plusieurs interrogations nous sont en effet venues en préparant cette émission.
We didn't lie to you folks, we told you we had living, breathing monstrosities.
Comment représenter le handicap? Faut-il oublier toute pudeur dans sa représentation? Pourquoi le handicap doit parfois ne pas être mis en scène? On en parle dès aujourd'hui avec notre invité Alex Philippe, comédien, scénariste et réalisateur, révélé par la série de France Télévisions Vestiaire, lui qui vient justement de réaliser Andy Cops, la série policière qu'il a conçue et tournée à Tours où tous les personnages ont eux-mêmes des handicaps.
Bon, alors là, c'est nettement oui.
En dernière partie d'émission, nous recevons Amar Nafa pour l'association Cinéma Différence qui aide les personnes handicapées à accéder aux salles de cinéma autant qu'elles le veulent. Graffiti Cinéma, c'est une émission que vous retrouvez sur toutes nos plateformes et notre page Facebook éponyme. Vous me retrouvez tout de suite avec Nicolas cette semaine pour interroger nos deux invités. C'est parti après un extrait de Vestiaire, la série créée par Abda Abdelli et Fabrice Chanu qui raconte l'aventure, les aventures de deux nageurs handicapés.
Le monde entier vous exprime toute sa reconnaissance.
Ça fait toujours plaisir.
On se retrouve juste après avec notre invité, notre premier de la semaine, Alex Philippe. A tout de suite.
En fait, t'as les jambes mortes.
Oh, tu me gonfles avec ça. Non, j'ai les muscles des membres inférieurs atrophiés.
Atrophiés, ok. Oui. Pardon.
Et toi, t'as quoi?
Moi, rien.
Eh, tu serais pas là si t'avais rien.
J'ai rien.
Ouais. Eh, c'est quoi ce bras de pingouin?
Oui, bah, excuse-moi, mais c'est vachement moins grave quand même.
Ça dépend. Tu touches combien pour ça?
80 euros mensuels.
Moi, je suis à 620 euros.
Ah ouais, ouais. Et quand même 310 balles la jambe morte.
Atrophiée.
Alex Philippe, bonsoir.
Salut.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Nico.
Salut tout le monde.
Alex, notre invité, on va évidemment te présenter justement, puisque ce qui est très important, c'est de comprendre que tu es comédien, tu es également scénariste, tu l'es devenu, donc on peut le dire même comédien, tu as fait le conservatoire et le centre dramatique de Tours, et puis surtout, tu as eu l'occasion en tant que scénariste de créer des fictions qui ont complètement changé le regard sur la représentation du handicap au cinéma. Plus récemment, une série qui est en tournage, qui a été tournée sur Tours, dont on va évidemment dévoiler l'actualité, Andy Cops, qui était vraiment très importante et qui, déjà, en plus d'être un jeu de mots absolument génial, va également pouvoir titiller notre intérêt. On va avoir évidemment une première question très générale, c'est que quand tu crées la série Vestiaire, on est déjà dans une époque en France où on sent que le changement sur de regard sur le handicap au cinéma est en train de s'amorcer. Comment avec cette série-là tu as pu le percevoir toi?
Alors d'abord une petite précision, c'est que Vestiaire, moi je suis pas le créateur.
Oui.
Moi je suis qu'un acteur qui a été casté par un processus de casting tout à fait classique, si ce n'est que il y avait une recherche très précise de rechercher pour ce programme-là des acteurs en situation de handicap. Et d'ailleurs, la production a vu beaucoup, beaucoup de gens. Toujours est-il que quand on a créé ce projet-là, enfin, moi, je sais qu'en fait, moi, j'avais déjà ma carrière d'acteur qui était en cours, parce que moi, je suis, c'est ma formation d'acteur, tu l'as dit, j'ai fait le conservatoire de Tours, je travaille au centre dramatique de Tours, on a monté des compagnies avec les copains, enfin, j'ai pas mal bossé. Et je sais pas, j'avais quoi, j'étais un peu avant que j'ai 30 ans, donc un peu avant, 2010, c'était, j'avais reçu, quand ils lançaient ce grand casting national, en France, j'avais reçu, la proposition par le bureau d'accueil de d'Indre-et-Loire, j'habitais à Tours à l'époque. Avec le responsable qui me dit, je sais pas si ça t'intéresse et tout ça. Et en vrai, la question du handicap dans mon travail d'acteur, je ne l'étais en fait jamais posée. Parce que déjà, j'avais une trajectoire qui se faisait plutôt au théâtre. Et moi, en fait, c'est quand j'ai reçu les textes et que je les ai trouvés pertinents, percutants, drôles, en trois répliques, on a posé le cadre des personnages. Et tout le premier épisode, qui est un peu l'épisode fondateur de Vestiaire, c'est des mecs qui discutent de combien de pognon ils touchent en allocation adulte handicapé.
Fais, monte ton bras, fais ça. Bon, je suis pas un spécialiste, hein. Prends mon doigt.
Ah, de tout de manière.
Non, mais ça, sérieusement. Ça, c'est un truc, ça vaut au moins 250 euros.
Ah bon?
Ah bah oui.
Et si en plus j'étais en fauteuil?
En fauteuil, c'est 800. Avec ton bras, ça cumule. 1250 euros. Hors taxe.
Et si en plus j'étais borgne?
Tu es un malin, toi. Attends. Monsieur borgne, une agénésie du bras gauche.
Gauche. Fauteuil.
Plus. Ah ouais. Atrophie des membres inférieurs. Un total TTC de 2000 euros.
Oh la vache! C'est pas dégueu, ça vaut carrément le coup.
Oui, c'est bien, mais il y a mieux.
C'est un peu une aventure qui, je crois, était assez décisive il y a une dizaine d'années. Justement parce que ça n'existait pas.
Et est-ce que la force du programme, c'est justement que le sujet, c'est la comédie et pas le handicap en tant que tel? Je trouvais que, au premier abord, c'était très, très drôle. Et que après le handicap, quelque part, c'était pas le sujet en soi. Enfin, je sais pas si... tu as cette lisibilité là de la série.
Ouais, moi je trouve que le projet, enfin la force du projet, elle est double. C'est-à-dire qu'en fait, mais il y a encore 10 ans, il y avait quand même encore un truc de justification culturelle, c'est-à-dire que si t'as un arabe dans ta bande, tu peux faire une blague sur les arabes. Bon, il se trouve que Ada il est maghrébin, donc en plus on coche deux cases. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un truc un peu de communauté, enfin sous le ceci étant, c'est encore un peu là. Mais donc il y avait ce truc là de gens en situation de handicap qui se moquent d'eux-mêmes, qui se mettent dans des situations, et puis ça attaque le quotidien, c'est-à-dire que vraiment ça s'amuse de ces choses-là, et finalement ça le banalise. Et je crois que c'était ça le grand défi de ce projet-là, c'était de banaliser le handicap en disant putain, en fait ils ont les mêmes problèmes que tout le monde, ils en ont d'autres, et puis il y en a, c'est les mêmes que tout le monde, quoi.
Moi j'ai un pote qui est à 3 000 euros, 3 000 balles, assistance médicale, femme de ménage et tout le toutim.
Oui, non, mais c'est un Machiavel, le mec.
Mais non, il est pas mort. Il cligne des yeux.
Donc en fait, si je comprends bien, plus tu touches et moins tu peux dépenser, en fait.
Et réciproquement.
Donc ça, moi, je trouve que c'était une super, quelque chose de très fort. La deuxième chose extrêmement puissante dans le projet, c'est que c'est des nageurs. Le projet, dans l'essence même, doit filmer des corps qui sont abîmés, des corps qui sont équipés avec des prothèses, avec des fauteuils, etc. Et ça, c'est une véritable... Enfin, ça, en fait, ça n'a jamais été vu, en fait.
Est-ce qu'il y a une forme de pudeur dans la mise en scène?
Alors, effectivement, alors, il n'y a pas de révolution de la mise en scène, attention. On est quand même dans un programme télé, on est à deux caméras, avec quelque chose de très classique. Non, en revanche, le travail qui a été fait dès le début par les réalisateurs, qui est une question que je me suis posée, moi, t'en parlais sur mon projet Handicops récemment, là, puisque je suis passé de l'autre côté de la caméra aussi sur ce truc-là. Alors, il y a la question de la pudeur, ça c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire attention à ce qu'on filme et comment on le filme. C'est une vraie question qui se pose et qui, par exemple, se pose différemment si on fait de la mise en scène au théâtre. Parce que Ferrari, quand on filme un corps, en fait, on peut décider de ce qu'on filme de ce corps-là. Et puis, si jamais on faisait du vestiaire au théâtre, bah, on fait rentrer un mec à poil ou un mec qui dandine, un mec qui risque de se casser la gueule à chaque fois qu'il fait un pas, je peux vous dire que le public va faire à chaque fois qu'il va voir un mec qui manque de se péter la gueule, parce que ça fait peur. Donc, c'est des choses fondamentalement différentes de les filmer ou de les mettre en scène au théâtre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des questions hyper techniques. Par exemple, moi, je fais 1m80. Mon collègue Ada, quand il est dans son fauteuil, il fait 1m50, quoi, quand il est assis. Bah, quand il faut filmer un mec d'1m80, un mec d'1m50 dans une image qui est horizontale, ça pose une vraie question de mise en scène. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a une espèce de on a des bancs qui sont centraux, parce que tout d'un coup, quand un acteur vient, il vient s'asseoir à côté avec deux personnes qui sont à la même hauteur. Et ça, c'est une vraie question de mise en scène. Mais il y en a des tas et des tas et des tas. Des questions de deux personnes qui n'avancent pas à la même vitesse, deux personnes qui rentrent dans un décor par une porte, dont un qui est en fauteuil, et ben c'est pas l'un à côté de l'autre, c'est l'un derrière l'autre. Des fois, quand il y a des sorties un peu dynamiques, et ben, par exemple, dans la mise en scène, on se dit, bon là, il faut sortir un peu, genre on court parce qu'on se précipite à l'extérieur, etc. Et ben, des fois, ça nécessite aussi de se dire, OK, soit la personne qui est en fauteuil, parce qu'elle va aller moins vite peut-être, il va falloir la faire partir en avant. Soit moi je dis, bah tant pis, je te double, mais dans ce cas-là, il faut que je te double à tel endroit. Enfin, c'est vraiment, t'es tout bête, mais c'est vrai que des questions comme ça, on s'en pose à chaque instant.
Est-ce que c'est les cinéastes qui ont manqué la volonté de relever le défi, ou c'était un manque de savoir-faire finalement dans les années passées? Parce que des grands cinéastes qui auraient pu relever ce type de défi dans le cadre, ça aurait pu exister. Est-ce que c'est par manque de talent ou par manque d'envie finalement? Est-ce qu'on peut avoir ce recul-là aujourd'hui?
Alors là, on va attaquer la question un peu plus générale et un peu plus philosophique, qui est la question de la place du handicap dans la fiction. Alors je crois qu'avant avant maintenant, en fait, très peu de personnes s'étaient posé cette question-là, déjà parce que c'est un sujet qui interpellait pas beaucoup. Ça commence un peu, il se passe des choses, mais c'est pas encore la panacée. Mais déjà, ça, voilà, il y a une question d'avoir envie d'en parler. Après, se pose la question de est-ce qu'on prend un acteur quand on écrit un rôle pour un acteur, pour un personnage handicapé, est-ce qu'on prend forcément un acteur en situation de handicap? Et à l'inverse, est-ce que on est systématiquement obligé de cantonner les personnes en situation de handicap dans des rôles d'handicapés? Est-ce qu'on peut pas leur proposer d'autres rôles? À partir du moment où on pose cette question, on se rend compte que les réponses sont contradictoires. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur une réponse unique. Je pense que la réponse vient en fonction du projet. Et chaque projet a sa respiration, son rythme et son espace. Je vais vous donner un exemple. Là, ce soir, là, on est, on peut dire qu'on est lundi 2 mai, on a le droit de le dire, ça?
Oui, c'est possible.
voilà. Donc, le jour de l'interview, on est lundi 2 mai. Ce soir, il y a un film qui est diffusé sur TF1 qui s'appelle Andy Bang, qui est une fiction réalisée par Stéphanie Pillonca, qui est adaptée d'un roman éponyme, et qui parle d'un gang de lycéens. Bon, vous lirez le résumé dans Télé 7 jours.
Je suis pas abonné.
Le rôle principal, c'était Théo Curin. C'est un copain qui tourne avec moi dans Bestiaire, qui est nageur en e-sport, qui n'est pas un acteur de formation, mais qui est quelqu'un qui apprend, et qui apprend d'ailleurs à une vitesse grand V. Je trouve ça assez fabuleux. Et à côté de ça, il y a tout un tas d'autres comédiens qui sont des comédiens beaucoup plus jeunes, beaucoup plus juniors. On est dans un film qui est un drama, donc on va chercher une forme d'authenticité aussi là. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est un vrai travail d'acteur, attention, mais on est dans un travail où on va chercher la nature des gens, par exemple. Donc là, c'est un projet qui a son existence. Moi, par exemple, le travail que j'ai fait sur Handicops, j'ai fait fondamentalement à l'inverse de ça. Moi, je n'ai pris que des acteurs, soit qui ont fait des formations, soit qui sont des acteurs confirmés depuis plusieurs années, etc. Je ne voulais que des gens du métier. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien.
Oui, c'est qu'il
y a une meilleure manière de faire
procéder. Ouais.
C'est juste que sur ce projet-là, qui était Handicops, c'est de la chance.
La démarche.
C'est de la comédie. C'est de la comédie. Alors, puis moi, vu que je suis auteur, moi j'écris mes dialogues, je les réécris jusqu'à ce que ce soit une partition de jazz. Quoi. Moi, j'estime que ça doit swinguer les dialogues.
Mon père de Sam est parti quand il était malade, et depuis, je me débrouille très bien toute seule avec lui. Tu veux pas penser à toi un peu? Ma priorité, c'est ça.
Et y a pas des chutes handicapées?
C'est là.
Tu es obligé de le porter.
On pourrait faire nous-mêmes la rampe d'accès à la cantine.
T'es prêt? C'est parti.
Il faudrait revendiquer notre action.
Andy Gang, un groupe qui revendique l'intégration des handicapés.
On demande le respect.
On va continuer à vous faire chier jusqu'à ce que le lycée soit remis aux normes.
Sam est renvoyé 15 jours du lycée.
Lâche-moi la grappe, j'ai plus 5 ans.
Lâche-moi la grappe.
Moi aussi, je vais vivre à fond maintenant. Plus rien ne sera comme avant.
Je le reconnais plus.
Il est comme tous les jeunes de son âge, quoi. Il grandit.
J'en ai marre d'être le gentil handicapé qui fait pas de vagues, là.
Andy Gang, que nous citait notre invité, on le retrouve sur le replay du groupe TF1 et sur Salto. vrai qu'en off, on discutait de ce que tu nous évoquais, qui est très important dans le cinéma américain surtout, mais qui a évidemment été pour eux dans le cinéma français, c'est la représentation du mâle alpha, tel qu'on l'a connu évidemment pendant les années Reagan, 80-90, et évidemment ça a eu des avatars en France, et encore aujourd'hui, hein, de toute façon, hein, on est une période où c'est cette représentation du mâle musclé, survitaminé, qui va encaisser dans son corps tous les sévices que les méchants lui font subir. Bah, on a fait une émission sur Bruce Willis la semaine dernière, il le représentait très bien. On voit que ça a évidemment joué sur la mise en scène du handicap au cinéma, dans cette pudeur qu'on évoquait tout à l'heure, dans le fait que on peut pas représenter un acteur qui a un handicap comme quelqu'un qui va être hyper musclé, et cette question-là s'est posée alors qu'elle devrait plus exister aujourd'hui.
Bah, c'est surtout que c'est une question qui s'est vraiment posée vraiment avec le blockbuster, hein, parce que si on réfléchit bien, des personnages en situation de handicap, il y en a plein la littérature depuis mille ans, en fait, quoi. Mais de Shakespeare à, mais même quand on monte dans la tragédie, on a que des gens qui sont écorchés vifs, quoi.
L'homme qui rit de Victor Hugo également.
L'homme qui rit, mais même avant ça, enfin, on en trouve partout, si tu veux, des pitis aveugles, il y en a plein la mythologie, quoi. Le héros, même par définition, est quelque chose d'un petit peu déjà désaxé, mais plus proche de nous, la littérature de Stevenson, l'antagoniste du roman, c'est quand même un unijambiste, quoi.
Ouais.
Et quand on lit le roman, c'est un unijambiste qui se bat à l'épée et à la béquille aussi bien qu'un épéiste avec deux jambes. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le fantasme de faire d'un handicap une force, et c'est assez fabuleux. Et plus on se rapproche de nous, la création des X-Men, c'est une allégorie pure et simple de la mutation génétique. Qui est poussé à l'extrême. Moi, un de mes personnages vraiment, vraiment fétiches, même si on parlait de masculinité toxique et on est complètement dans le sujet, c'est le personnage de Cobra. Cobra, moi, quand j'étais gamin, c'était mon héros, parce que mon bras gauche, c'était un petit peu ce qui me faisait, ce qui me semblait un petit peu différent des autres. Et tout d'un coup, j'imaginais qu'un jour, je retirerais mon bras et dessous, il y aurait un rayon laser. Dans Cobra, on est dans un monde absolument où toutes les femmes sont en bikini, sont à poil, etc., etc. Mais déjà, il a ce truc-là, Cobra d'ailleurs, et c'est pas pour rien qu'il a inspiré de Belmondo.
Oui, tout
c'est que
fait.
Belmondo, bon, il y avait un côté machiste, mais Belmondo, on n'a jamais vu Belmondo comme on a vu Schwarzenegger.
Hé hey, par ici, il y en a un autre là-dessous.
Il est vivant?
J'en doute. À mon avis, il est en pire état que la voiture.
Arrêtez de gesticuler! Bon sang, vous allez mourir d'une hémorragie!
Mais qui c'est ce type? Sa survie tient du miracle et il se débat comme un chien enragé!
Vous êtes bouché ou quoi? C'est pas vrai! Je refuse! Je hais les hôpitaux, c'est pigé!
Ah bon? Attendez de voir nos infirmières super sexy!
Hein? Vous avez dit infirmière super sexy? Comme c'est étrange! Je le sens tout à coup, Patrick.
Qu'est-ce qui se passe? Il est mort?
C'est-à-dire qu'on était plus sur ce personnage truculent, actif, qui fait ses cascades, etc. Mais
oui,
on était
un personnage humain, alors que Schwarzenegger est devenu une sorte de corps machine dans le cinéma.
Mais tout, c'est-à-dire que même quand tu regardes tout le cinéma young adulte des années 2000, les beaux gosses, ils sont tous foutus pareil, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont filiformes, ils sont séchés un maximum.
Zac Efron.
Et ils sont hyper musclés, quoi. Comme si tous les lycéens de la Terre avaient autant de pecs. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Ou alors, faut changer de lycée, mais bon, faut chercher longtemps. Cette représentation qui est très cliché. On voit le mal qu'elle peut faire à la fois aux comédiens, mais également, il y a une question sociétale là-dedans, évidemment, qui est très importante et qui est vraiment à mettre en avant.
Moi j'avais une question, une petite anecdote. Il y a quelques années, je travaillais avec des jeunes myopathes en situation de handicap. Donc, quand Intouchable est sorti, et malgré toutes les qualités du film, eux, Intouchables, ils voulaient pas le voir, en fait. Alors, ils voulaient pas le voir par opposition, mais en fait, tout le monde leur disait, ah, mais toi qui es en situation de handicap, t'as dû voir Intouchables. Bah non, en fait, non, c'était des jeunes ados, ils avaient envie d'aller voir Iron Man ou Spider-Man, quoi. Et pas plus que ça, le film Intouchables. Et c'est là où, quelque part, je trouve qu'il y a une évolution aujourd'hui. On regarde un personnage comme Hawkeye dans la série Disney+, qui est quand même un gros truc mainstream, bien bodybuildé. Et bah, justement, le côté mal une fois, il disparaît un peu et le personnage est en situation de handicap. Et quelque part, on en fait ni une force ni une faiblesse. C'est juste un constat. C'est comme ça. Et on ne travaille pas plus le sujet que ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Est-ce que tu as vu une évolution comme ça sur la notion d'handicap, ou quelque part, c'est juste une composante du personnage, mais c'est pas un sujet traité en soi. Est-ce que tu vois une petite évolution de la société à ce niveau-là sur les productions?
Alors on peut, ouais, si on voit quelque. Alors après, moi, c'est-à-dire que moi, j'ai aussi un parcours qui est un peu atypique dans le sens où j'ai mes trois casquettes. Mais par exemple, moi, ma carrière d'acteur, elle s'exprime principalement dans un réseau familial. C'est-à-dire que effectivement, quand je vais tourner sur Balles Perdues, c'est parce que c'est Alban qui me fait venir sur le film.
Dans le noir, oui.
Quand je tourne dans Marianne, c'est parce que c'est Samuel qui veut tourner avec son pote Alex. mais même quand je tourne avec Fred Grivois, on s'est rencontrés via Empreinte Digitale, les producteurs de Lazy Company, Marianne et compagnie. On s'est rencontrés parce que Fred, il avait fait plusieurs projets avec eux et il me connaissait. On s'est rencontrés. Il m'a dit viens. Et moi, ça fait 3 ou 4 productions que je fais avec Fred Grivois. Et à chaque fois, c'est un coup de téléphone. Salut Alex, tu viens, tu me rejoins sur tel projet, quoi. Donc ça, c'est un truc. Et sur tous ces projets, il n'y en a pas un seul qui parle de handicap, en fait. À l'inverse, donc là, ce que j'ai fait sur Handicops. Moi, justement, j'ai essayé de faire un petit peu réfléchir à ce truc-là. Pour le coup, c'est un sujet. Je veux dire, c'était le projet. C'était de faire un projet comédie sur le handicap. Donc, moi, je me suis un peu trituré la tête pour proposer une idée. Et en fait, je me suis posé la question de quel était le chemin encore à parcourir depuis ce qu'on a fait avec Vestiaire, par exemple. Et je me suis dit, ok. Vestiaire, c'est on parle du quotidien des personnes en situation de handicap. On banalise la chose et voilà, on les voit parler de problèmes, de fringues inadaptées, de places de parking, mais également de putain, faut que je paye mes impôts ou j'ai bouffé un kebab l'autre jour, il était pas bon. Enfin, je dis n'importe quoi. Hein, je schématise, mais voilà, on a dressé un espèce de portrait comme ça de banalisation. Et ce qui était essentiel, mais c'était essentiel et ça a déjà 10 ans. Donc moi, quand j'ai fait Handicops, je me suis posé la question de si je suis un acteur en situation de handicap, qu'est-ce que j'aimerais jouer? Qu'est-ce qu'on me proposera jamais comme rôle? Alors effectivement, on me proposera jamais Rocky. On me proposera jamais Total Recall. Alors que pourtant, ça pourrait. mais je veux dire, on fait peu de projets comme ça. Enfin, vraiment, c'est un truc qui,
tout lesquels ce on va pas tellement. Le cinéma de genre, en quelque sorte, encore qui est peut-être un peu fermé.
Ouais. Je sais pas si le cinéma de genre, mais même, si tu veux, même à plus forte raison, un drama, un gros drama, tu vois, un truc cinéma d'auteur, etc., machin, Gaumont, Pathé, Universal et compagnie. À moins de faire un film sur le handicap, voilà, on ne proposera pas le rôle.
Ouais, ce qu'on disait au début, en effet, c'est vrai que ça se retrouve tout à fait.
Alors, à moins d'être une espèce de star qui a pété tout ça, comme Jamel, par exemple, oui. Qui a explosé ce truc-là et qui a jamais voulu qu'on parle de ce truc-là et qui, du coup, mais bon, lui, il a un parcours de stand-upper aussi, hein, c'est autre chose. Je veux dire, c'est pas dans une carrière d'acteur où tu fais des films et puis petit à petit on te connaît un peu plus et puis voilà. Enfin, moi, les directeurs de casting, j'en vois pas très souvent. Et je vais même te dire un truc. Un jour, j'ai fait un casting pour une série que j'ai fait avec Olivier Fox il y a 3-4 ans. Il y avait un personnage en fauteuil roulant dans l'histoire. Et j'avais lu le personnage et je pensais à mon collègue Philippe Civi qui tourne avec moi dans Vestiaire et que j'ai embarqué sur Handicops. Et je me suis dit, putain, c'est écrit pour lui, quoi. C'était pour lui, ce truc-là. Et j'avais posé la question à la directrice de casting. Je lui avais dit, vous avez trouvé le rôle pour l'acteur, le rôle du maire, etc. Elle me dit, bah ouais, on pense à quelqu'un, etc. Et je dis, mais c'est un acteur en fauteuil roulant. Elle me dit, non. Mais de toute façon, les acteurs en fauteuil roulant, ça n'existe pas.
Oui, c'est justement
directrice de casting, hein, oui. C'est-à-dire la personne dont c'est le métier, hein, tu vois.
Mais si tu
disais, donc moi, en fait, j'ai vraiment fait ce chemin-là sur Handicops. Ouais. Je me suis dit, mais je vais péter ce mur-là. Donc, quel est l'endroit où on n'attend pas des handicapés, c'est
la police.
Dans des rôles de flics. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment poussé le curseur en me disant, je vais faire ça, mais c'est surtout que j'aurais pu me contenter de faire Kaamelott ou Vestiaire, c'est-à-dire trois pelés assis à une table qui se parlent. Donc il y en a des scènes comme ça. Mais il y a aussi une course-poursuite en fauteuil roulant avec une cascade, il y a aussi une fusillade, il y a un fusil à pompe, et j'ai un climax de fin de saison où je fais une scène de d'assaut où il faut libérer les otages, et tous mes héros utilisent leur handicap comme une force. C'est vraiment, c'est un peu le message que j'ai eu envie de raconter sur ce truc-là. Donc je sais pas si je vais avoir réussi mon truc, je sais pas si j'ai réussi mon coup, je sais pas si ça va être suffisamment bien, mais en tout cas c'était l'ambition, et ambition c'est le bon terme, c'est vraiment une ambition, c'est d'aller un peu là où péter un peu quelques murs comme ça, aller un peu plus loin dans la tentative en fait.
Bah on sait que je sais pas qui va distribuer cette série qu'on a très très hâte de voir, mais c'est vrai que bon, on va te poser évidemment la question avant que Nico il ait l'assiette pour finir. C'était vraiment l'idée puisque tu disais dans un article de Nouvelle République que souvent on résumait les acteurs comme tu viens de le dire à l'instant handicapés à leur béquille et effectivement c'est très très lourd et on perçoit à quel point ça peut être pesant cette thématique là et à la fois pour le comédien qui le subit mais que pour le potentiel spectateur qui perd une bonne fiction finalement et comme on a pu en voir des tonnes qui se sont fait parce qu'il y a eu du courage du côté des réals et des producteurs pour le faire. C'est essentiel de voir ça et de mettre ça en avant. Pour Andy Cops, bon, la question très très usuelle avant Nicolas, c'est comment va être distribué. Le tournage, il est fini, on le sait, c'était tourné sur Tours. Et quand est-ce qu'on va la voir? Est-ce que à quel stade vous en êtes? Vous cherchez un distributeur? Comment ça se passe?
Alors la série, c'est une commande en fait au départ. C'est une commande de l'antenne de France 3 Centre-Val-de-Loire.
Très bien.
Qui m'ont contacté. En gros, je la fais rapide. Hein, je ne vais pas vous faire tous les détails, mais et qui m'ont passé commande parce qu'ils souhaitaient créer un projet de comédie sur le thème. Ils voulaient, ça leur tenait à cœur de faire quelque chose sur le thème du handicap.
Très bien.
J'ai répondu à la proposition et je suis venu avec le pitch d'Andy Cops qui leur a plu. Après, ensuite, donc j'ai pris contact avec Portrait Robot qui sont les producteurs. Qu'ont été hyper emballés par le projet et puis après bah on a monté un financement comme d'hab quoi. Donc en gros pour l'instant le projet parce que on est sur des petits budgets hein, donc on a fait ce qu'on estime être ce qu'on espère être une saison pilote en fait, c'est-à-dire qu'on a fait 8 épisodes de 3 minutes.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est très très loin d'une saison classique pour une shortcom, pour un Kaamelott, un Scène de ménage, hein, on est plutôt sur 200 épisodes par an. Même Vestiaire, on est sur 50 épisodes par an. D'accord. Là, moi, j'en ai fait 8. Hein.
Oui.
Donc, on est sur un truc qui est un début de quelque chose. Mais néanmoins, on a quand même une fenêtre de diffusion parce que on a déjà le diffuseur. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une première diffusion sur France.tv, donc la plateforme de France Télévisions. Ce que je trouve très bien, moi, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir toucher tout le monde tout de suite. Et après, je pense qu'il y aura une deuxième fenêtre de diff, un peu plus exclue en hertzien, sur France 3, région centre, en attendant de voir si le projet après fait des petits et se poursuit. Mais là, on a posé les bases d'un univers, et ce qu'on espère, c'est pouvoir le développer. Parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse continuer à raconter cette histoire, parce que on a posé des choses que je trouve chouettes, quoi.
Le cinéma inclusif, ça existe ou pas? Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que depuis 2005, il y a une évolution sur... Alors, la société bouge. Est-ce qu'au niveau du cinéma, t'en as déjà parlé beaucoup, mais est-ce que vraiment ça bouge aussi? Est-ce que le regard a changé? Là, je parle vraiment plus côté public. Est-ce que, quelque part, le retour de vestiaire a été, alors j'espère, positif, mais est-ce que tu as eu des anecdotes, des retours de gens en situation de handicap qui ont été comme ça un peu aidés par des productions de ce type?
Moi, je suis pas sûr qu'il faille se poser la question d'un cinéma inclusif, justement, parce que enfin, je vois pas pourquoi il faudrait que ce soit plus inclusif que le monde entier, de par la nature même d'une de la société, c'est-à-dire du vivre ensemble, quoi. Mais bon, après, faut aussi, c'est les petites batailles qui font les grandes guerres, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sûr que, voilà, je veux dire, c'est les mêmes problèmes sur les questions de ce qui est terrible, c'est de se rendre compte que c'est les mêmes problématiques avec,
le racisme,
avec le racisme, tu vois, ce livre fabuleux qui dit noir n'est pas mon métier, ou même les questions de parité, quoi. Je veux dire, on est obligé tout à coup de mettre des quotas, etc., machin, parce que c'est un chemin par lequel je crois que c'est pas mal de passer. Pour l'anecdote, Franck Dubosc, il a fait un film il y a quelques années qui s'appelle c'est un truc avec Alexandra Lamy, qui est en fauteuil roulant, et lui il se fait passer pour un mec en fauteuil roulant pour la séduire. Il y a eu un petit moment un peu polémique que j'ai trouvé très intéressant. Il y a une jeune femme qui avait vu le film, qui était une jeune femme en fauteuil roulant, qui était figurante, je crois, sur le film. Je sais plus si elle était figurante ou si elle était, ou si c'était une jeune femme en fauteuil roulant qui avait vu le film, et qui avait tweeté qu'elle avait vu le film, qu'elle avait vachement aimé, et elle avait posé la question sur le compte Twitter de Franck Dubosc en disant, mais pourquoi ne pas avoir pris une comédienne en situation de handicap? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a plein de réponses possibles à cette question.
Oui, c'est vrai.
Du cinéma, ça se finance, et pour financer un film, faut une actrice un peu bankable, ça voilà. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, ou tout simplement, je travaille avec qui veut, et moi j'ai envie de bosser avec telle actrice parce que je la trouve fabuleuse, je travaille avec elle. Moi, toutes ces réponses sont acceptables. La seule réponse qui, pour moi, n'est pas acceptable, c'est la réponse qu'il a faite dans son tweet officiel, hein, que vous pouvez le retrouver sur internet. Il a répondu parce que comédien c'est un métier.
Ah oui, oui, on comprend à quel point c'est la réponse la plus difficilement acceptable, même
pour quoi. Donc moi j'ai eu envie de répondre, réalisateur aussi. mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce compte-là, c'est infernal. Ouais. C'est-à-dire que ça met deux choses en parallèle. Enfin, je veux dire, ça s'appelle un sophisme, un raisonnement comme ça, quoi. C'est terrible de dire quelque chose comme ça. C'est probablement maladroit, je souhaite, je connais pas Franck Dubosc, donc je ne fais pas de
procès. Oui, on peut l'espérer, parce que c'est vrai que là, c'est d'une violence folle, hein, quand même, la réponse.
Mais pour moi, c'est assez symptomatique de plein de choses. C'est-à-dire que c'est souvent la réponse qu'on nous envoie sur plein de trucs. Mais je veux dire, on a un vrai problème en plus en France sur le... Enfin, moi, pourquoi est-ce que je me suis mis à faire de la réal, au-delà du fait que ça me titillait un peu, c'est que quand t'as une carrière d'acteur et une carrière de scénariste, il y a un vrai problème de connexion neuronale. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, t'es scénariste ou t'es acteur? Mais ce que je veux dire, c'est moi, je connais des gens qui ont des grandes qualités d'auteur, qui sont par ailleurs ingé son ou je sais pas quoi, et on leur dit, mais t'es ou chef opérateur et tout. Mais t'es chef opérateur ou t'es ingé son ou t'es scénariste? C'est pas le même métier. Je trouve ça assez terrible comme réponse. Donc du coup, pour répondre à ta question sur le cinéma inclusif, il y a des initiatives qui sont intéressantes. Je pense notamment à une agence artistique qui s'est créée l'année dernière qui s'appelle Singulariste. Et j'ai tourné avec deux comédiens de cette agence, Nandicops. qui est une agence qui, elle, se veut représentative de la société en général. Donc, ils représentent à la fois des acteurs de tous horizons, donc, mais leur credo, c'est de dire, voilà, on a envie que notre agence, elle représente la société. Donc, des gens qui ont peut-être des problèmes de surpoids, des gens qui sont transgenres, des gens en situation de handicap, etc., etc., etc. Mais ils ont aussi tout un tas d'autres comédiens qui ont d'autres profils, etc. Et on sent bien toute la difficulté de ce discours-là, je sais parce qu'on en parle souvent hein, avec elle, hein, c'est que tout d'un coup, tu dis, mais comment communiquer sur des gens qui ont des singularités sans les résumer à cette singularité. Alors, quelqu'un qui a un handicap physique, c'est pas très compliqué. Tu vas sur sa fiche, tu vois des photos de lui, s'il a une prothèse de bras et que qu'il est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, tu la vois. Moi, quand j'envoie des photos d'acteurs, j'envoie systématiquement une photo de portrait en pied, comme ça au moins je mens pas sur la marchandise, quoi. Et quelqu'un qui a un handicap, qui a une forme d'autisme, par exemple, un trouble autistique, quelqu'un qui aurait une cécité, quelqu'un qui aurait une surdité, comment tu en parles de ça sans mettre dans ton CV comédien sourd?
Oui, c'est
très 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 très, très bizarre comme et c'est normal que ce soit vraiment questionnant. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire un vrai travail de rencontre, de discussion. Et moi, je sais, quand je les ai rencontrés, Marie et Laura de Singulariste, bah, elles m'ont proposé des profils en fonction de ce que j'avais, ce que je recherchais et tout ça. Elles m'ont envoyé plein de gens. Et il y a des gens que j'ai pris et il y a des gens que j'ai pas pris parce que ça correspondait pas à ce que je cherchais. Mais là, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors par ailleurs, j'ai observé une autre chose qui, moi, je pense, et là, j'en parlais tout à l'heure sur les directeurs de casting. Moi, j'ai fait des castings, c'est moi qui ai fait les castings directement sur Handicops. C'est-à-dire que j'ai vu les gens et je les ai vus une demi-heure par personne. Hein. J'ai fait une séance de travail. Hein. C'était pas, j'avais fait venir un comédien pour donner la réplique, tout ça. Enfin, moi, les castings où on pose quelqu'un devant une caméra qui bouge pas, je veux dire, c'est comme ça que se font 90% des castings et j'aime pas ça.
C'est un peu la scène terrifiante qu'on a dans une époque formidable, là où c'est pas du casting, mais c'est pour recruter quelqu'un dans une boîte. On voit à quel point le côté kafkaïen est assez angoissant, quoi.
Ouais, c'est ce que vous voyez dans la série casting de l'ordinaire.
Voilà. Hein. Exactement.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Hein. 90% du temps. Il y a deux choses, moi, qui m'ont marqué absolument. La première, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont pourtant censés être des acteurs confirmés que j'ai vus, donc des gens qui venaient avec des agences, tout ça, et qui sont arrivés en casting et qui étaient complètement paumés. Mais c'est normal parce qu'en fait, là, on est dans un circuit fermé, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui n'ont aucune expérience du casting, qu'on peut-être pas travaillé depuis longtemps, enfin tout est possible en fait. Mais j'arrive avec des gens qui ont soit l'impression de jouer leur vie, parce que mon Dieu, on va me proposer un truc et tout, et c'est terrible. Il y a des gens qui sont c'est très dur pour eux. Soit on a des gens qui ont aucune expérience de travailler à la caméra, du casting, etc., et qui arrivent, qui sont largués, quoi. Je peux pas travailler avec ces gens-là. Il y a aucun échange qui se passe parce que ça ne fonctionne pas. Donc je vais pas les prendre, donc ils vont pas prendre en expérience, et c'est, voilà. Après, moi, j'ai donné leur chance, enfin, j'estime que j'ai fait le maximum, quoi. Et ça, c'est un premier truc qui est dingue. La deuxième chose qui m'a marqué, et c'est une petite anecdote assez étonnante, j'avais un personnage dans Handicops qui était un personnage de non-voyant. Non-voyante, même d'ailleurs. Moi, j'avais genré les personnages sur mon texte, mais j'ai vu des gens de tout genre, homme, femme, pour tous les rôles, parce que je me suis dit, je préfère trouver le bon acteur et le réécrire plutôt que de m'arrêter. Mais sur, quand t'écris un scénario, tu mets pas, tu mets un nom, quoi.
On n'écrit pas pour un comédien, ou pour un profil.
Non, voilà. Et puis après, tu crées ton équilibre, c'est une équipe que tu fonctionnes. Mm-hmm. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices non-voyantes, et j'ai pas trouvé. J'ai vraiment pas trouvé chaussure à mon pied, et j'ai eu une constante un peu générale. J'avais beaucoup de gens qui avaient un problème d'apprentissage du texte. Alors, je sais pas à quoi c'est dû.
Les textes trop longs. Je plaisante.
Alors, non. mais ça ne fonctionnait pas, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionnait pas du tout. Et j'ai même eu une comédienne qui, elle, avait fait l'effort de taper son texte en braille. Donc, je pense qu'il y a un élément de réponse là-dedans, déjà. Et par exemple, quand tu écris un scénario, bon, tu as tout un tas d'informations qui sont parasites. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu écris sur un logiciel de scénario comme Final Draft, à la fin d'une page, il y a écrit mort, M-O-R-E, parce que ça veut dire que le dialogue continue. Et en début de page d'après, il y a écrit compte 2 pour continuité dialoguée. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un monologue qui se termine sur une page et continue sur la page d'après, ils te mettent ça pour que tu saches quand tu lis. Ben, la personne, elle a tout tapé. Et au milieu d'un monologue, elle dit ça veut dire quoi, mort?
Ah, d'accord. Ah, oui, ok.
Et c'est normal qu'elle comprenne pas, parce que personne lui explique. Donc là, moi, j'ai fait un feedback à l'agent. Je lui ai dit, ben, à l'avenir, récupérez le texte, passez-le dans un Word, supprimez tout ce qui est parasite pour qu'elle puisse le taper et être sûr qu'elle a tout bien le texte. Faites peut-être une séance de lecture avec elle et tout. Là, les outils sont pas adaptés, donc faut faire quelque chose. Et quand tu as la chance d'être, ben, du coup, d'être accompagné par un agent, ben, il faut justement profiter de cette chose-là. Enfin, en tout cas, faut trouver des solutions. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont faisables. Il y a encore une marge de progression de ma boule.
Mmh. Oui, bien sûr, on l'entend, hein, on perçoit tout à fait, quoi. Et c'est...
Mais par contre, effectivement, il y a des petites choses quand même qui commencent de plus en plus à se passer, quoi. Donc tant mieux, vraiment.
Bah, en tout cas, c'était très enrichissant de t'avoir, Alex, pour parler de tout ça. Donc, Alex Philippe, on rappelle, hein, tu viens de récemment créer, d'où ma confusion avec Vestiaire tout à l'heure, Handicops, et auparavant, il y avait la Easy Company qui était évidemment aussi tout aussi divertissante, on a eu l'occasion d'en parler. Et c'est vrai que de Vestiaire jusqu'à Handicops, on était très content de pouvoir évoquer avec toi ce parcours-là, parce que on voit toutes les problématiques que tu as toi-même dû subir et que tu essayes de régler dans cette carrière, donc de scénariste, réalisateur et comédien. Un très très grand merci pour ça, parce qu'on apprend évidemment des tonnes de choses. C'est vraiment très très important d'avoir ça avec nous pour cette émission là.
Eh ben, je vous en prie, on peut en parler des heures, hein. Donc si vous avez d'autres questions.
Quand on peut attendre, espérer Handicops dans les prochaines semaines?
Alors je pense qu'on, avec la première information à prendre avec des pincettes, hein. Je pense qu'on aura une diffusion pas avant le mois de novembre.
D'accord.
Je crois que là, le diffuseur souhaiterait profiter de la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap pour lancer le projet. Là encore, c'est un vaste débat. Faut-il attendre un prétexte pour lancer une fiction ou y trouver ? Voilà, ça pose aussi les questions des financements. Est-ce qu'on est financé comme toutes les fictions ou est-ce qu'on est financé sur un budget diversité ? Bon, quand je dis, on pourrait en parler des heures. Voilà. Mais donc, ceci étant, je pense qu'il faut prendre toujours les choses quand elles sont positives. Ce qui est bien, c'est qu'on a une fenêtre de diffusion.
On suivra ça avec très très grand intérêt, évidemment. Voilà, et puis au plaisir de se voir. De se
voir. On est en post-prod et que la post-prod se passe bien. Voilà, c'est ça que je peux vous dire.
Bon, bah, tous nos voeux pour la post-prod. Et puis voilà, au plaisir de se revoir IRL pour reparler d'Handicops et de plein d'autres projets, évidemment, à l'avenir. C'était en tout cas un très très grand plaisir. Merci beaucoup.
Eh ben, merci à vous, en tout cas.
Merci.
C'est une association que je soutiens depuis pas mal de temps maintenant. Je suis marraine de cette association. Et d'ailleurs, je me demande même pourquoi on doit être obligé de créer des associations pour simplement aller au cinéma. Moi, ça me paraît aberrant qu'on puisse refuser des gens sous prétexte justement qu'ils sont différents ou qu'ils sont, je sais pas quoi, perturbateurs. La première chose, c'est ça, c'est de sensibiliser le regard des autres. Mais moi, je pense que l'accès à la culture est très important pour tout le monde et peut-être encore plus pour des gens comme ça qui sont extrêmement sensibles.
Cinéma Différence est né de la frustration de familles comportant une personne handicapée avec des troubles du comportement de ne pas pouvoir aller au cinéma comme tout le monde. Ces familles peuvent parfaitement aller au cinéma, mais dès que la personne manifeste son intérêt, son plaisir ou son anxiété par des cris, par des bruits, par des mouvements, elle est très vite l'objet de regards et de remarques de l'ensemble du public qui font qu'elle ne se sent vraiment pas à sa place et que toute la famille est obligée de sortir.
Et nous sommes avec Amar Nafa de l'association Cinéma Différence. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre association travaille de manière vraiment à rendre accessibles les salles et le cinéma à tout le monde, évidemment, et tous ceux qui souffrent également de handicap.
Oui, c'est ça. L'objectif de Cinéma Différence, c'est de rendre accessible un loisir culturel qui, pendant de nombreuses années, a été le premier loisir culturel des Français. Maintenant, je pense qu'avec les plateformes, c'est un petit peu passé. Mais c'est rendre accessible le fait d'aller au cinéma avec et comme tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le travail de l'association. Et c'est donc du coup une action qui est menée d'abord à l'initiative de parents qui sont confrontés au handicap de leur enfant. Et là, la question de l'accessibilité ne se pose pas forcément sur la question de est-ce qu'il y a une rampe, est-ce qu'il y a un ascenseur pour pouvoir accéder au cinéma. Ce n'est pas non plus une question forcément d'accessibilité sensorielle. Donc, est-ce qu'il y a des sous-titres, est-ce qu'il y a de l'audio-description, mais c'était plus en fait des handicaps qui entraînaient des comportements qui étaient un petit peu atypiques, hors normes dans ces lieux, à savoir, ça peut être des besoins de vocaliser, des cris, des besoins de bouger. Donc voilà, tous ces types de comportements qui font que dans un cinéma où c'est très codifié quand même, on s'assoit, on est dans le noir, on regarde le film en silence, sauf quand on mange du pop-corn ou que les téléphones sonnent parfois. Mais globalement, voilà, on doit rester silencieux et pas bouger de sa place. Donc forcément, pour ces personnes, aller au cinéma, c'était un petit peu une épreuve, puisque les autres spectateurs, pas forcément informés de cette réalité, lancent des regards, font des réflexions. Donc voilà, pour beaucoup, ça représente toujours une épreuve d'aller au cinéma. Donc on y va un petit peu avec la boule au ventre. Et pour d'autres, c'est même totalement inconcevable. On veut pas se risquer justement à ces regards, à ces réflexions, et on préfère du coup ne pas y aller. Donc c'était vraiment l'idée d'offrir, avec des séances cinéma différence, un espace où chacun se sent le bienvenu, se sente à sa place et accueilli de manière bienveillante et chaleureuse pour partager un moment, une salle de cinéma.
Nicolas.
Donc, concrètement, donc on vous sollicite sur votre page internet si on est parent ou accompagnant de personnes en situation de handicap et vous pouvez donc proposer l'organisation. J'essaie d'être pédagogue sur ce plan-là. Donc vous organisez une séance, on va dire clé en main, si j'ai bien compris.
Alors c'est un petit peu différent, mais on est un ovni, donc on a l'habitude de devoir réexpliquer comment on travaille. L'idée pour nous, c'est plus de travailler avec les établissements culturels, donc les cinémas, pour ça a été le cœur de l'association, son nom témoigne, mais maintenant ça s'est un petit peu ouvert à d'autres établissements. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux et des partenaires locaux pour rendre accessibles des séances ordinaires. Donc nous, on aime à dire qu'on n'organise pas de séance, c'est vraiment votre cinéma de quartier qui propose sa séance, qui est une séance qui est à l'affiche du cinéma, avec un film qui est à l'affiche au moment où la séance a lieu, mais c'est juste une séance qui est rendue accessible avec un petit un dispositif d'accessibilité, donc qui représente la séance Cinéma Différence, qui repose surtout sur une équipe de bénévoles formés, qui va fournir un accueil renforcé sur cette séance pour accompagner les spectateurs en fonction de leurs besoins. Ça peut être juste juste un bonjour avec un sourire, mais ça peut être donner le bras pour aider à s'installer à son siège, et qui sont là s'il y a des besoins aussi pendant la séance, et ils sont là aussi pour informer les spectateurs qui ne sont pas concernés par le handicap, puisque ce sont des séances tout à fait classiques du cinéma, sur les spécificités en fait de la séance, à savoir les codes assouplis. Donc si une personne en situation de handicap ou ses accompagnants souhaitent participer à une séance cinéma différente, ils peuvent aller sur notre site où ils retrouvent, donc on travaille avec un peu plus de 70 salles partenaires en France. Donc ils peuvent retrouver les cinémas près de chez eux qui proposent ces séances cinéma différence. Et c'est environ une séance par mois qui est organisée dans ces lieux. Donc ils peuvent retrouver la séance. C'est aussi important pour nous que ce soit une séance qui a lieu le week-end, pour permettre la venue en famille. Sur la question de l'accessibilité, parfois, notamment pour les personnes déficientes auditives, les séances qui sont sous-titrées en français, elles ont lieu le mardi à 14h. Donc ça, c'est un petit peu compliqué du coup pour aller au cinéma. Là, c'est vraiment des séances qui ont lieu le week-end pour pouvoir venir en famille, entre amis, et partager, comme j'ai dit, la salle de cinéma avec des spectateurs aussi qui ne sont pas en situation de handicap, parce que l'idée, c'était pas de faire des séances dédiées aux personnes en situation de handicap, c'est vraiment...
faut vraiment qu'il y ait des interactions et que les gens soient à côté, et c'est tout l'intérêt, évidemment, du dispositif, c'est pas de mettre les personnes souffrant de handicap à part, sinon ça, on imagine que le sens, il se perd un petit peu. Quel retour vous avez eu au départ de la part des exploitants?
Alors, Cinéma Différence, ça a été créé en 2005, Donc d'abord, c'est vraiment né comme initiative parisienne, comme je l'ai dit, de parents, des parents concernés qui ont sollicité un cinéma qui a été plutôt ouvert et partant. Et ensuite, bah, ça a fait un petit peu tache d'huile parce que des gens par bouche à oreille avaient entendu que ça se faisait, donc ils voulaient que l'association voilà s'étende et aide du coup à organiser des séances ailleurs. Et c'est vrai qu'en 2005, c'était un petit à partir de 2005, je veux dire, c'était un petit peu plus compliqué. Bah, c'était souvent, donc on travaille avec des partenaires locaux qui sont soit des associations du champ du handicap, soit des collectivités territoriales. Et c'est vrai qu'au début, c'était plus des associations et elles avaient parfois du mal à convaincre, entre guillemets, les cinémas, parce que pour certains, ils étaient un petit peu réticents, en disant, mais non, mais ça va déranger, entre guillemets, mon public habituel. Et petit à petit, c'est quelque chose qui s'est fait. Et puis aussi, bah, quand je dis 2005, c'est la dernière grande loi sur le handicap en France, c'est 2005. Donc, ça a aussi amorcé un changement dans les mentalités. Et c'est vrai que de nos jours, on voit le travail qui a été fait aussi. Les exploitants sont de plus en plus sensibilisés aux questions d'accessibilité motrice, aux questions d'accessibilité sensorielle. Et du coup, bah, ils s'ouvrent aussi à cette question de l'accessibilité pour des handicaps autres. Ces handicaps, on n'en a pas parlé, mais ça peut être des personnes autistes, des personnes polyhandicapées, des personnes avec un handicap intellectuel. Et c'est vrai que ce sont des handicaps, globalement, avec lesquels on est moins sensibilisé. Donc, on s'imagine pas que ça peut être aussi que des personnes ne peuvent pas accéder au cinéma à cause, entre guillemets, de comportements qui sortent de la norme. Donc, du coup, petit à petit, les années passant, y a de plus en plus maintenant de même directement de cinéma qui nous contactent pour mettre en place le dispositif dans leur salle. Et on se rend compte que c'est plus un frein, enfin voilà, ce côté peur de déranger, ça reste maintenant très très marginal, et les exploitants sont plutôt contents, parce que c'est aussi, ça fait venir un public qui ne venait pas jusque là.
Oui, c'est vrai que ça, pour eux aussi, c'est un argument évidemment important. C'est que bon, après, on les touche pas que par l'économie. On en connaît des exploitants, c'est des gens très gentils. La plupart du temps, il n'y a pas que l'argument des gros sous qui les fait bouger, évidemment. Bon, Nicolas, je vais t'essayer de poser ta question évidemment, mais on les retrouve donc ces cinémas sur votre site, donc Cinéma Différence. Mais est-ce qu'il y a en projet, je dirais, une sorte de macaron, un label pour qu'on les voit un peu comme les TripAdvisor à l'entrée des boulangeries quand on se promène? Est-ce que c'est en projet? Enfin, c'est une question un peu banale,
agrément, ouais,
qui me vient à l'esprit.
Bah, l'idée, en effet, c'est de travailler sur la visibilité du dispositif, pour que aussi des personnes qui sont habituées aux séances, par exemple, je sais pas moi, à Tours, si elles sont en vacances ou en déplacement à Bordeaux et qu'il y a un cinéma qui le propose, elles puissent le voir facilement.
D'accord.
Et l'idée, c'est que l'accueil soit entre guillemets le même. Donc du coup, il y a cette base en fait d'accueil qui est commune, et les aménagements qui sont proposés seront communs. Je n'ai pas parlé des aménagements en détail, mais c'est du coup, donc, comme j'ai dit, ça repose sur une équipe de bénévoles formés. Donc ce côté accueil renforcé, humain et chaleureux, c'est vraiment la base. Il y a des petits aménagements techniques. Donc aux séances, il n'y a pas de bande-annonce ni de publicité avant la séance, pour vraiment concentrer l'attention des spectateurs. Pour certains, ça peut être un peu compliqué, donc vraiment pour concentrer sur le film. Il y a un son qui est un petit peu baissé pour les personnes qui peuvent souffrir d'hyperacousie. Mais ça, c'est une adaptation qui plaît aussi aux spectateurs qui ne sont pas en situation de handicap, qui trouvent parfois que
c'est ce que j'allais dire. C'est aussi bon, vous enlevez les pubs et vous baissez un peu le son, j'achète aussi. Il n'y a pas de problème.
et du coup, il y a une lumière qui s'éteint progressivement. Donc, le noir se fait dans la salle, mais l'idée, c'est que ce soit un peu plus progressif pour éviter d'angoisser des personnes en les plongeant dans le noir directement. Et aussi, il y a un tarif réduit qui est proposé du coup à tous les spectateurs de la séance, puisque pour certaines personnes qui viennent en famille, on ne sait pas si on va pouvoir rester un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, parce que c'est aussi un apprentissage. Les gens viennent au début et ne peuvent pas rester forcément toute la séance. Donc dans certains cinémas, quand on doit payer plus de 10 € la place, qu'on a une famille 4 et qu'on reste un quart d'heure, on réfléchit un petit peu avant de venir et on se dit je vais pas tenter. Donc avec les tarifs réduits qui sont proposés dans le réseau, ça va entre 3 et 6 € pour les plus chers. C'est quelque chose qui permet de prendre le risque, entre guillemets, plus facilement.
Oui, tout à fait.
Aussi, pour les personnes
Et puis on en avait parlé avec les exploitants pendant le confinement, le cinéma il a un rôle de lien social, donc de toute façon personne doit en être exclu, c'est absolument indispensable et c'est vraiment quelque chose de très important à mettre en avant tout ce que vous faites.
J'avais une question sur le type de film, est-ce qu'il y a des films qui rencontrent plus de succès que d'autres, est-ce qu'on est nécessairement, j'ai envie de dire intuitivement, vers l'animation pour enfants ou ce genre de choses, cinéma grand public, familial, est-ce qu'il y a des films qui s'y prêtent plus que d'autres?
Alors sur les films, on a quelques petites... restrictions dans la programmation, c'est toujours des films en version française, puisqu'une partie de notre public n'a pas accès à la lecture, les films en version originale sous-titrée ne sont pas adaptés. On essaye d'avoir aussi une durée, allez, on va dire en dessous des 2 heures, parce que voilà, pour certains types de handicaps, maintenir l'attention sur une longue durée, ça peut être compliqué. Et après, on est aussi sur des films où on n'a pas des procédés narratifs qui sont trop compliqués. Donc, par exemple, avec beaucoup de flashbacks ou des choses comme ça, il faut que la narration soit quand même assez, linéaire, simple à comprendre, mais qu'il soit linéaire. Et pareil, des films avec beaucoup d'ironie de second degré, ça peut être pour certaines personnes compliqué à suivre. Et après, on essaye d'avoir une programmation. Donc, comme j'ai dit, il y a une séance par mois. D'avoir la programmation la plus diversifiée possible. Aussi bien, vous avez parlé de films d'animation pour enfants de temps en temps, mais sinon des films familiaux, des comédies. Globalement, on essaye de proposer des choses grand public parce que c'est ce qui va toucher le plus grand monde. Mais c'est l'idée aussi de pas infantiliser le public.
Bien sûr.
Donc de proposer vraiment tout type de film, et puis après c'est aussi à chacun de venir en fonction de ses goûts, chaque film ne plaira pas forcément à tous les spectateurs, mais ça c'est comme le cinéma habituel, mais ça fait partie du coup de la règle du jeu.
Comment du coup vous développez concrètement, est-ce que vous recrutez des bénévoles, vous les formez, vous les proposez, comment concrètement on vous rejoint si des gens sont intéressés qui nous entendent, est-ce qu'on peut vous apporter des dons, du soutien financier, comment ça fonctionne pour vous aider dans tout ce que vous faites?
Alors oui, on peut en numéro 1, si on souhaite apporter des dons, on peut les envoyer à l'association. Donc sur notre site internet, il y a cette possibilité. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, la possibilité de s'inscrire en tant que bénévole dans ces séances. Donc on est présent dans à peu près 70 villes en France. Donc les équipes sont mouvantes. On demande quand même un engagement sur une saison minimum pour avoir quand même une certaine régularité et pour que les organisateurs sachent sur qui ils peuvent compter sur la séance. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un profil particulier. On cherche pas des professionnels du médico-social ou du cinéma, on cherche juste des gens qui souhaitent être facilitateurs de l'expérience, et ensuite c'est la bonne volonté, du savoir-être. On a aussi bien des étudiants que des retraités et tout ce qu'on peut trouver entre les deux. Si ça vous intéresse de vous engager pour cet accès à la culture pour tous, n'hésitez pas à contacter du coup les dispositifs qui sont les plus près de chez vous. Toutes les coordonnées pareil sont
donc
sur le site internet
cinemadifference.fr. On tape juste cinemadifference.com, comme ça se prononce. J'imagine vous avez tout, l'arborescence, Facebook également qu'on peut vous retrouver,
c'est ça, Facebook, voilà. Twitter,
parfait, vous retrouver, c'est complet. C'est royal. En tout cas, un très très grand merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis nous, évidemment, comme
merci
pour
vous
inviter, la porte serait ouverte pour qu'on continue à suivre votre actualité avec grand plaisir. Et puis, évidemment, au plaisir d'une prochaine actu, en tout cas vous concernant, on sera très heureux de relayer tous vos dispositifs et leur mise en place, évidemment.
Un grand merci à vous pour l'invitation et à bientôt. Alors.
Merci beaucoup.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça?